Chaque jour, des hommes et des femmes contribuent au bien de leur communauté par la promotion des valeurs. Ces hommes et ces femmes transforment et impactent positivement la société. Ces entrepreneurs sociaux, ces modèles de réussite méritent tous les honneurs dans La Paix en Chanson. La Paix en Chanson, conception, présentation, Ghislain Koulibaly. La paix en chanson.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de La paix en chanson. Celle que nous recevons aujourd'hui est une consoeur. Elle est journaliste indépendante et travaille donc pour plusieurs grands médias français. Elle est aussi diplômée en sciences politiques, une discipline qu'elle affectionne tout particulièrement. Et elle nous dira pourquoi. Et toujours est-il que sa passion pour le journalisme s'est forgée à travers son premier stage qu'elle obtient à TF1, la première et plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale française. Et cette opportunité est également pour elle un grand challenge, un défi à relever. Entre boulot et famille, sa vie est aussi secouée, surtout par le décès de sa mère. Et elle se voit obligée d'assurer l'éducation de ses petites sœurs encore adolescentes. Gina Loukiessa est notre invitée aujourd'hui dans La Paix en Chanson. Bonjour Gina.
Bonjour Ghislain, merci beaucoup pour l'accueil.
Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir, Gina, ici à Radio de la Paix pour cette émission La Paix en Chanson. Et vous avez un parcours édifiant, rythmé par le travail, l'attachement à la famille et puis également à la solidarité humaine. Mmh. Voilà, et des valeurs que nous allons scruter ensemble tout au long de cette émission. Et cela va se faire en partie à travers des chansons que vous aimez écouter, des chansons qui font partie de votre quotidien. Et dans votre playlist, on trouve du jazz, particulièrement du Miles Davis. Et on va écouter un bout.
La paix en chanson, la paix en chanson.
Blue in Green, extrait de l'album King of Blue, sorti en 1959, et c'est Miles Davis. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche de ce titre ?
Blue in Green, c'est un titre que j'ai découvert tard. Aux États-Unis, j'avais à l'époque un petit ami américain. On allait souvent dans des clubs de jazz Et ça, c'était un titre qui était souvent interprété le soir. Et des fois, quand on était en voiture, il la mettait. Et parfois également, je retrouvais ce titre dans les clubs. Je ne sais pas, c'est un titre qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je l'écoute quand j'ai envie d'être apaisée, quand j'ai envie d'être au calme, quand j'ai envie de me retrouver seule, en fait.
Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement à l'écoute de cette chanson ? Ce sont les instruments qui vous bercent ?
Ouais. En fait, je la trouve triste.
Ouais.
Et en même temps, je la trouve apaisante. Et j'ai jamais vraiment analysé à quel moment j'écoutais vraiment cette musique. Mais oui, voilà, moi, elle m'apaise plus qu'elle m'attriste, je dirais, plutôt. Ouais.
Voilà. Alors, c'est justement important, cette question d'apaisement. Et ça permet de bien démarrer cette émission et cet échange avec Gina Loukiessa que nous recevons aujourd'hui dans ce numéro de La Paix en chanson. Et du Congo à la France, que dire de votre enfance ?
Alors, moi je suis née à Kinshasa au début des années 80. Ma mère est congolaise, mon père est angolais. Et ils se sont rencontrés à Kinshasa parce que mon père avait quitté avec sa famille l'Angola. Il y avait la guerre en fait à cette époque-là. Du coup, mon père a quitté l'Angola, il a rencontré ma mère qui était déjà très belle à l'époque. Et ils sont tombés amoureux et voilà, ils m'ont conçu, je suis l'aînée de la famille. Ils ont conçu également à la même époque ma petite sœur. Et puis, quand j'avais 3 ans, mon père a eu l'opportunité de voyager, de quitter le Congo pour la France. Il avait un ami qui avait des garages en France et donc il avait besoin de main d'œuvre, pardon. Et mon père donc a été engagé en tant que garagiste. Hein, et puis il avait comme volonté de faire venir ses enfants et sa femme dès qu'il en avait les moyens. Et c'est ce qu'il a fait. Donc à 5 ans, j'ai quitté Kinshasa avec ma sœur, ma mère, et on est arrivé à Levallois dans le 92. En fait, c'est une petite banlieue parisienne. On arrive à Levallois et puis voilà, j'ai appris à découvrir mon père parce que je savais que j'avais un papa qui était en France. Mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones hein, comme aujourd'hui. J'avais juste des photos, mais voilà, quand j'ai vu mon papa, bah, on a réappris à se connaître. Un peu comme des animaux qui se touchent comme ça. On a appris à se connaître. Et voilà, mon père était quelqu'un de très mutique. Il ne parlait pas beaucoup. Mmh. Il ne punissait pas beaucoup non plus. C'était ma maman qui tenait la maison. C'était elle qui corrigeait nos devoirs. C'était elle qui punissait. Mon père, c'était plus pour des bons moments, en fait. C'était pas un papa colérique. Pas du tout. Non, non. Donc voilà, j'ai grandi en France. Et j'ai fait toute ma scolarité en France. Voilà.
Et vos premiers pas à l'école, est-ce que vous avez en mémoire cette ambiance-là ?
Mm-hmm.
De la maison, sur le chemin de l'école, à l'école, les rencontres ?
Alors, l'école à Kinshasa ou l'école... À Kinshasa, j'ai fait la maternelle.
Okay.
À Kinshasa, j'ai fait la maternelle. Donc, j'ai des souvenirs de l'uniforme, que je portais l'uniforme. Ma mère, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma mère, elle avait fait des études de médecine. Et donc, moi, j'ai été élevée par ma grand-mère, qui s'occupait de nous, en fait, quand ma mère était à l'école, pendant les études. Et donc, pour moi, pendant très longtemps, ma maman, c'était ma grand-mère, en fait. Même si j'avais une maman, mais pour moi, comme c'était elle qui était tout le temps là, pour moi, ma grand-mère, c'était ma maman, en fait. Et donc, j'ai fait mes études à Kinshasa. C'est ma grand-mère qui a payé les études, parce que ma grand-mère, avait à l'époque beaucoup de moyens financiers. Elle faisait du commerce entre Kinshasa et... entre les deux capitales, c'est-à-dire Kinshasa et Brazzaville, qui sont juste séparées par un fleuve. Et ma grand-mère vendait des produits qu'elle achetait en Europe, elle les revendait ensuite à Brazzaville. Donc on avait quand même pas mal d'argent, et elle ne voulait pas me mettre dans une école privée. Elle voulait me mettre dans une école publique. Du coup, j'ai été à l'école publique pendant un an, et elle a décidé de changer, parce qu'à l'école publique, il y a une petite anecdote... Ce qui a décidé ma grand-mère de me changer d'école, c'est qu'à l'école publique, à l'époque, on voulait que les enfants aient les cheveux courts, très courts. Et moi, petite, j'avais les cheveux très longs. Et le directeur voulait me raser la tête. Ma grand-mère s'est opposée, du coup, elle m'a changé d'école. Donc, je suis rentrée dans une autre école, mais j'avais un peu perdu mes repères parce que à l'école où j'étais, j'avais tous mes amis. Donc là, j'ai débarqué dans une autre école où je connaissais personne. J'étais un peu malheureuse et ça n'a pas duré très longtemps. Après, on est arrivé en France. Et en France, j'ai appris à redécouvrir des gens que je ne connaissais pas. Mais sauf que là, en Afrique, j'avais affaire à des gens qui me ressemblaient. Là, j'arrive en France et la plupart des gens sont quand même blancs de peau. Ils ne me ressemblent pas du tout. Mais à cette époque-là, je réalise pas encore que je suis une femme, que je suis une petite fille noire. Franchement, je réalise pas encore. J'ai pas encore cette conscience-là. Non. La conscience de la peau, je l'ai pas encore. En revanche, la conscience de que je suis différente, ça oui, je l'ai parce que je parle français, mais je parle pas français comme eux en fait. Je fais des fautes d'orthographe, j'ai un accent et on se moque de moi. Mais très vite, j'arrive à me faire des amis. Parce que je pense que j'ai une facilité à me faire des amis. Donc très vite, j'ai des amis. Et très vite, je me sens moins seule. Et l'école devient un refuge parce que j'adorais l'école. J'étais assez bonne à l'école. Ce que j'aimais, c'est que j'apprenais plein de choses. Donc pour moi, c'était là qu'il fallait être en fait. Et pas ailleurs. C'était là qu'il fallait être.
C'était des grands moments, des moments où beaucoup de valeurs sont partagées, des découvertes, de la curiosité aussi.
Oui, mais au-delà de ça, moi j'étais juste heureuse d'être en France, j'étais heureuse d'être en France, j'étais heureuse d'être en bonne santé, j'étais heureuse d'avoir plein d'amis, j'étais une enfant quoi,
Ouais. Et on va dire le soutien des parents, justement, dans ce choix-là à l'école. Après, en grandissant, il y a des choix qu'on veut faire hein, par rapport à la carrière qu'on aimerait choisir, embrasser. Mm-hmm. Est-ce que les parents ont joué un rôle ici à ce niveau-là
ou, dans le choix des études ?
Dans le choix des études.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, je travaillais bien à l'école. Je n'ai jamais eu de problème à l'école. Et en parallèle aux études de la primaire au lycée, et même après, je faisais du théâtre le mercredi. Et donc moi, je m'imaginais plus tard, faire du cinéma ou du théâtre. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience de ce que je voulais vraiment faire. En fait, c'est mitigé la question que tu me poses, c'est-à-dire que c'est pas aussi tranché. C'est-à-dire que moi, j'avais une volonté enfouie en moi, c'est-à-dire que je voulais être plus tard comédienne. Mais en même temps, en grandissant... Mes parents voulaient pas trop qu'on regarde la télé. On pouvait regarder la télé le mercredi après-midi. Il y avait Club Dorothée, pour ceux qui connaissent. Et il y avait aussi une émission qui s'appelait 7 sur 7, qui était présentée par Anne Sinclair, une grande journaliste française. Et moi, je m'imaginais bien, comme Anne Sinclair, recevoir plein d'invités différents, parler de plein de choses. Et en même temps, j'ai envie de faire du théâtre. Et puis plus tard, quand il a fallu choisir, eh bien naturellement, mes professeurs m'ont dit que je pouvais faire un peu ce que je voulais. Ma mère m'a dit non, mais Gina. Et moi j'ai dit non, mais maman, moi j'ai envie de faire du théâtre. Elle m'a dit non, mais Gina, mais tu vas pas faire du théâtre. T'as des capacités, tu vas faire du théâtre. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit oui parce qu'en fait ma mère. C'est aussi un modèle, c'est-à-dire qu'elle arrive en France, elle était femme de ménage, femme de chambre dans les hôtels. Ensuite, elle est devenue gouvernante d'hôtel, gouvernante générale. Et pour moi, c'était quand même une réussite, en fait. C'est-à-dire qu'à travers ma mère, je voyais qu'en fait, même en arrivant de très bas, on pouvait réussir. Et je me suis dit, moi, j'ai la chance d'avoir grandi en France, d'avoir fait des études. Et j'ai la chance de ne pas être trop bête. Donc effectivement, elle a raison, je vais m'engager vers peut-être un métier plus noble. Mmh. Et donc, après le lycée, j'ai intégré une première année de lettres, parce que mes professeurs m'ont conseillé d'aller vers cette voie-là. Et j'ai intégré la Sorbonne en première année, et ensuite j'ai fait une école de journalisme, parce qu'en fait, les études de lettres ne m'intéressaient pas, ça m'ennuyait plus qu'autre chose. J'ai fait une école de journalisme. Et après 3 ans, après avoir eu mon diplôme, je suis partie vivre aux États-Unis pendant un an.
Bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Vous suivez La Paix en chanson. Et aujourd'hui, nous recevons Gina Loukessa, elle est notre invitée, elle est journaliste indépendante, elle travaille pour plusieurs chaînes françaises, hein, Canal+, TF1, M6, j'en oublie même, Gina.
TV5 Monde aussi.
TV5 Monde, bien évidemment. Et donc, Gina, naturellement, a fait des études en journalisme. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à étudier ce métier?
Plusieurs choses. Ce qui me donne envie de, c'est ça, ce qui me donne envie de faire ce métier. Plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y avait les BD que je lisais quand j'étais plus jeune, Tintin et tout ça. J'aimais bien. C'était un oncle qui m'y rapportait. J'aimais bien m'imaginer sillonner le monde, etc. Après, il y a eu 7 sur 7, une émission que je regardais le dimanche avec ma mère, où il y avait une journaliste qui recevait des célébrités, des politiciens, des cadres financiers. Et je me disais, mais c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est incroyable qu'elle puisse interroger tous ces gens. Et je pense que ça a nourri mon imaginaire en me disant, ça serait bien si tu pouvais le faire toi aussi plus tard. Et puis, plus tard, pour moi, c'était une certitude que c'était ce métier que je voulais faire.
Ouais. Ouais. Et vous décidez d'apprendre, bien avant de vous lancer comme ça à la conquête des chaînes de télé.
Bien évidemment, j'ai fait des études de journalisme.
Ouais.
Après, j'ai fait un master de sciences politiques. Et toutes ces études, en fait, m'ont nourri. Bon, l'école de journalisme, pas trop, mais la science politique, énormément, parce que c'est vraiment des études qui m'ont passionnée. On apprenait la géopolitique, on apprenait... Les polarités dans le monde, on apprenait mais tellement de choses. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire de toute cette culture en fait que je m'imprégnais au fil des mois et ensuite au fil des années. Mes études ont duré 2 ans, mais ça a vraiment été les meilleures études de ma vie, vraiment, vraiment.
Les études en sciences politiques.
Oui, vraiment.
Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous servez justement de ce que vous avez appris en sciences politiques
pour bien
construire vos scripts, vos questionnaires, quand vous avez des interviews, des reportages?
En fait, ça s'articule pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que mes études de sciences politiques me permettent de ne pas être perdue, en fait, quand je vais quelque part. C'est-à-dire que quand je vais en Afrique, naturellement, je me renseigne sur l'ambiance du pays. Naturellement, j'essaie de savoir, c'est quoi la monnaie et c'est qui le président et c'est quoi la religion dominante. Voilà, ça c'est des
réflexes.
Choses. Voilà, ça c'est vraiment des réflexes que j'ai naturellement, mais ça c'est dû à mes études, oui.
En sciences politiques.
Oui.
Ouais. Et puis votre premier stage en tant que journaliste. C'est TF1 qui vous accueille, cette grande chaîne généraliste française. Mm-hmm. Alors, ça vous fait quoi d'entrer déjà dans cette chaîne-là, toute
jeune? Je suis
excitée.
Ouais. Pour moi, c'est... vous savez, pour les parents, en tout cas pour les parents d'immigrés, parce que moi, mes parents étaient immigrés. Pour les parents d'immigrés, intégrer une chaîne comme TF1 déjà, même si ce n'était pas mon premier emploi, je rentrais chez TF1 en tant que stagiaire, donc ça, en vérité, avec le recul, ça ne veut rien dire. Mais pour moi, c'était déjà une réussite, en quelque sorte. Et j'ai toujours eu la volonté de rendre fiers mes parents. Et rien que ça, pour moi, c'était beaucoup leur donner. Comme je disais tout à l'heure, mes parents, ils sont partis de rien, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, même si ma mère vient d'une famille assez aisée. Mais en arrivant en France, en fait, on s'est retrouvés avec rien, quoi. Donc, pour moi, c'était aussi rendre fiers mes parents, leur dire, voilà, votre première fille, elle rentre chez TF1. Et du coup, quand je suis arrivée chez TF1, pour moi, il fallait que je réussisse. C'est-à-dire que mon premier stage, il fallait qu'il soit concluant. Je ne pouvais pas partir sans contrat, ce n'était pas possible. Donc, je me suis donnée à fond. Et mon rédacteur en chef m'a fait confiance. Je crois qu'il a dû voir en moi cette rage quand même que j'avais. Et il m'a confié mes premiers sujets. Il m'a envoyé sur le terrain, alors qu'avant, on n'envoyait pas les gens comme ça sur le terrain. On attendait un petit peu et ensuite, on les envoyait. Moi, il m'a envoyé à peine une semaine quand je suis arrivée. Il m'a envoyé sur le terrain et je me suis défoncée sur le terrain. J'étais avec quelqu'un qui était quand même assez... je suis partie avec un caméraman qui était, lui, assez expérimenté. Aujourd'hui, on est encore amis, mais c'est vrai que quand je suis arrivée, Il m'a montré ce qu'il fallait faire. J'ai appliqué exactement ce qu'il me demandait de faire. J'avais bien préparé mon interview. Donc, pour moi, tout était... j'avais pas le droit à l'erreur, en fait.
Et puis, vous avancez petit à petit dans ce métier. Mm-hmm. Après ce stage-là, il y a eu des contrats.
Après, j'ai eu des contrats, oui. Oui. Déjà à TF1, ensuite à France 24, ensuite chez M6. Mm-hmm. Et après, je suis restée assez longtemps chez M6 avant de devenir indépendante.
Et voilà, vous parlez là de ce volet-là, de cette indépendance que vous prenez dans ce métier de journalisme. Et vous êtes aujourd'hui journaliste indépendante. Mm-hmm. Et pourquoi vouloir partir du confort salarial? Qu'est-ce qui vous amène à faire ce choix?
Ce qui m'amène à faire ce choix, c'est que j'avais envie j'avais envie d'autre chose pour moi. J'avais envie de faire d'autres reportages, j'avais envie de découvrir d'autres milieux. Au début, quand j'ai commencé à faire ce métier, je faisais que des petits sujets de 6, d'abord de 3, 6, 9, 9 minutes. Et moi, en fait, j'ai envie de faire des documentaires, j'ai envie de faire des sujets plus longs, j'ai envie de voyager, j'ai envie de concrétiser ce que j'avais... comme volonté quand j'étais petite, c'est-à-dire que Tintin, il voyageait, il n'était pas dans sa rédaction du matin jusqu'au soir. Hein. Et donc, j'avais envie de ça, en fait. J'avais envie de m'essayer à d'autres formats. J'avais envie de... Oui, j'ai envie de changement, en fait. Je ne voulais pas faire tout le temps les mêmes sujets.
La paix en chanson.
Et puis, en tant que journaliste indépendante, vous travaillez sur des sujets donc, que vous sentez, c'est cela?
Je propose des sujets et on m'en propose aussi.
Au quotidien, comment cela se passe?
Au quotidien, c'est-à-dire que je travaille avec des sociétés de production, mmh, qui, elles, travaillent avec des chaînes de télé. Et à ces sociétés de production, je leur propose des sujets, puis ils me disent oui ou non. Et eux, pareil, ils me proposent des sujets, je leur dis oui, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on devient indépendant, ce qu'il faut savoir, ça veut dire aussi que financièrement, on se met quand même dans une espèce de précarité. C'est-à-dire que si je ne vends pas un sujet, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'entrée d'argent. Et ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. On sort d'un confort.
Mais vous avez du même une stratégie.
En fait, moi, je pense que j'ai toujours eu un peu foi en moi.
Ouais.
Et je suis une bosseuse. Même si c'est dur parfois, même si parfois on peut pleurer, etc. Vraiment, je pense que je suis une bosseuse et je baisse jamais les bras, en fait. J'essaye, en tout cas, de jamais baisser les bras. Je me dis, ce sujet, il n'a pas été vendu, je vais en vendre un autre. Si elle n'est pas vendue, je vais en vendre d'autres, en fait. Je vais en proposer d'autres. Et ça veut dire qu'il faut lire, ça veut dire qu'il faut écouter ce que les gens vous disent dans la rue, vraiment s'inspirer de tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, pour trouver une idée qui peut séduire les gens, qui peut séduire aussi les chaînes de télé, mmh, qui peut intéresser, tout simplement.
Et vous avez des anecdotes concernant ces contrats que vous avez pu avoir en tant que journaliste indépendante?
Non, ce n'est pas des contrats, des sujets, vous voulez dire?
Des sujets.
Alors, moi, le sujet qui m'a vraiment... Il y en a plusieurs, en vérité. Il y a un sujet qui m'a beaucoup touchée. C'était un sujet que j'avais fait à l'époque pour M6. C'était sur la précarité énergétique. En fait, c'est des gens qui, en France, n'ont pas d'électricité chez eux. C'est-à-dire qu'en hiver, ils peuvent vivre avec des moins 1, des moins 2 chez eux. Sans chauffage, sans eau chaude, avec des enfants... Et ce sujet m'a marqué parce qu'en fait, quand on est journaliste, une fois qu'on a fait notre sujet, on filme les gens chez eux, ensuite on rentre dans notre hôtel. Et moi, j'étais arrivée dans mon hôtel, j'avais le chauffage, j'avais une couverture, un lit chaud, et je repensais à cette famille, en fait. En France, en région, c'était près de Lille. Et en fait, il y a plein de sujets comme ça où vous rentrez chez les gens. Moi, dans mon travail, je rentre dans la vie des gens tout le temps, en fait. Et il y a des vies qui peuvent être tristes, comme celles que je viens de vous décrire. Et il y a des vies qui peuvent être passionnantes, comme il y a quelques années, j'avais filmé les mariages au Nigeria pour Canal+. Et là, je découvre des gens, mais un univers totalement fou, quoi. C'est-à-dire que l'argent coule à flot... les gens ne se préoccupent pas, en fait, de combien coûte ne serait-ce qu'un costume, une robe.
C'est pas de limite.
Il n'y a pas de limite. Pareil aux États-Unis, il y a quelques années, j'avais filmé des jeunes qui faisaient Spring Break à Miami. C'était la débauche totale. Et en fait, c'est des univers qui sont tellement différents du mien, mais qui sont quand même intéressants à découvrir et à montrer, parce que ça existe, en fait.
C'est la réalité.
C'est la réalité, exactement. Et moi, mon travail, c'est ça, c'est de décrire la réalité.
vous avez été bercé en musique par les goûts de maman. Mm-hmm. Et dans la playlist de maman, il y avait ce titre de Michael Jackson, Liberian Girl. Et c'est une chanson qui, jusqu'à aujourd'hui, vous fascine et que vous aimez écouter.
Ouais.
Alors, parlons un peu de cette histoire avant d'écouter le titre.
Ma mère avait des goûts musicaux très, très différents. Elle écoutait Michael Jackson, elle écoutait Emilia Bell, elle écoutait un peu de jazz. Elle écoutait aussi des musiciens français du Kassav. Elle écoutait Alain Souchon. Et moi, j'ai été nourrie un peu par tout ça, en fait. Mais c'est vrai que Michael Jackson, c'était tellement un phénomène à l'époque. J'adorais l'artiste, j'adorais ses chansons, j'adorais ses chorégraphies, sa musique. Et Liberian Girl, c'est une chanson qui me... Je sais pas, qui m'émeut.
Ouais.
Ouais.
Et on va se laisser toucher par ce titre, Liberian Girl de Michael Jackson. Michael Jackson et ce titre figure sur l'album Bad, sorti en 1987. Et puis pour la petite histoire, Gina, cette chanson à sa sortie a été très bien accueillie au Liberia, par les populations, les communautés, mais surtout par les femmes du pays qui considéraient cette chanson-là comme une source d'autonomisation et de motivation. Et chaque fois qu'elles écoutaient ce titre, elles avaient de l'espoir. Et voilà. Et vous? C'est vraiment également un titre, on va dire, qui fait partie de votre quotidien, que vous écoutez, mais qui vous plonge aussi dans cet espoir-là, mais aussi dans des souvenirs aux côtés de maman à l'époque.
Oui, ma mère, c'est quelqu'un de... C'est une femme très aimante.
Oui.
Pardon, j'ai un peu la voix qui tremble quand je parle d'elle, parce que c'était ma meilleure amie, c'était ma conseillère, c'était... En fait, elle savait manier l'art d'être une maman, je dirais pas sévère, parce qu'elle n'était pas sévère, mais elle savait manier la douceur et la rigueur. Et la, ouais. Ma mère était extraordinaire, hein. Franchement, c'était une super maman. Hein.
Ouais,
vraiment,
ouais.
C'était une femme géniale. Moi, c'est un modèle pour moi, et j'espère que pour mes enfants, je serai un modèle identique. En tout cas, j'espère me rapprocher de ce qu'elle était, en fait, comme femme.
Et vous avez été choquée quand maman a été rappelée à Dieu. Et c'est normal, le fait d'être arrachée à cet être-là, cher et proche. Et ça vous a aussi boosté dans votre élan en tant que responsable au niveau de la famille. Surtout que derrière, il y avait des petites sœurs et que vous avez pris en charge.
Oui, en fait, quand ma mère est décédée, mes sœurs étaient encore adolescentes. Ouais. Moi, j'étais jeune adulte. Et mes parents étaient divorcés depuis une bonne dizaine d'années. Du coup, Du coup, c'était un peu logique que je prenne la relève et que je m'occupe d'une petite sœur parce qu'elles avaient, en fait, elles avaient aucun repère. Mon père était encore en vie, mais comme ils étaient divorcés, on n'avait pas beaucoup de liens avec notre papa. Et que moi, après mes études, je rentrais tous les soirs à la maison. Donc, naturellement, en fait, j'ai pris cette responsabilité. J'ai fait en sorte que mes sœurs, j'ai fait en sorte que mes sœurs soient bien. C'est-à-dire que j'avais une sœur qui voulait faire des études de commerce. Les études de commerce en France coûtent très cher. Donc, j'ai mis beaucoup d'argent de côté pour lui payer ces études-là. J'avais une autre sœur qui était un peu plus jeune, qui, elle, elle grandissait. Elle était ado. Elle avait 15 ans, mon autre sœur, la dernière. Et il fallait... c'est un peu comme une maman, il fallait la diriger, il fallait la protéger, il fallait suivre les études, ensuite le permis de conduire, les fréquentations, tout ça. Enfin, il fallait gérer tout ça, il fallait gérer la maison aussi. Après, grâce à Dieu, Dieu a été là en fait à cette période-là parce que cette période-là, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. J'ai commencé à gagner de l'argent, en tout cas suffisamment pour prendre soin de mes petites sœurs en fait. Parce qu'avant, je gagnais un peu d'argent, mais c'était pas ça qui pouvait faire vivre une famille. Mais quelques mois après que maman soit décédée, j'ai commencé à gagner de l'argent, en tout cas suffisamment d'argent pour élever mes petites sœurs, pour payer le loyer, pour payer tout le reste. Et
la providence était là.
Voilà, c'est ça. Vraiment, Dieu a été là. Pendant cette période-là, Dieu a été là, vraiment. Ouais. C'est vrai que je ne vais pas à l'église tous les jours. Je ne peux pas dire que je suis une chrétienne exemplaire. Mais je crois en Dieu parce qu'à plusieurs moments, il m'a montré qu'il était là, en fait. Et là, il était là, clairement.
Et aujourd'hui, vos petites sœurs, quel est le regard qu'elles ont vis-à-vis de vous ? Elles continuent de vous considérer comme étant leur maman ? Ou c'est toujours cette relation entre sœurs ?
Non, le regard a un peu changé aujourd'hui.
Ouais.
Parce que ça fait bientôt 10 ans maintenant qu'elles ont volé de leurs propres ailes. Non, au début, elles me considéraient comme leur maman parce que j'étais quand même celle à qui elles s'adressaient quand il fallait signer les cahiers, quand il fallait payer des choses, demander l'autorisation pour sortir. Donc j'étais un peu, effectivement, j'étais un peu la maman en fait à la maison. Et puis petit à petit, ce regard a changé. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma place de grande sœur. On fait plus de choses... en tant que sœur.
L'équilibre des choses.
Ouais, c'est revenu. Ouais. C'est revenu.
Dans votre parcours, il y a justement ce voyage aux États-Unis. Hein, vous passez un bon moment, un an, je crois, ou un an et demi.
J'ai passé un an aux États-Unis, oui.
Un an aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce pays-là, les États-Unis ?
En fait, moi, je suis partie aux États-Unis parce qu'à l'époque, j'avais un petit ami américain. On s'est rencontrés en France et on s'était promis qu'une fois que j'aurais terminé mes études, j'allais le rejoindre aux États-Unis. Donc j'y suis allée. C'était quelqu'un qui avait pas mal de moyens et du coup, je ne travaillais pas en fait. Je faisais un peu de babysitting par-ci par-là, mais j'avais un visa pour ça, mais je ne travaillais pas vraiment. Et là-bas, déjà, j'ai appris la langue. Mais là-bas, je me suis beaucoup ennuyée aux États-Unis. Vraiment, c'est des années où je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée, mais... C'est des années où j'ai observé, c'est des années où je me suis un peu amusée. J'étais avocat d'affaires, je suivais dans ses voyages, etc. Donc, j'ai appris la langue déjà grâce à ça. Et ça, vraiment, j'en serais à vie reconnaissante pour cette expérience-là. Parce que grâce à ça, je suis bilingue en fait aujourd'hui. Ça me permet de faire des sujets en anglais, de m'exprimer correctement en anglais. Donc ça, déjà, c'est un bagage énorme. Et puis, j'ai appris aussi à connaître les Américains. C'est-à-dire que les Américains, très jeunes, on leur inculque la réussite. C'est-à-dire que quand on est Américain, on ne veut pas ne pas réussir.
Le leadership.
Le leadership. On leur apprend à s'exprimer aussi. Ça, je ne savais pas. Mmh. Mais à part ça, moi, ça m'a aussi appris... la culture noire américaine, parce que mon petit ami de l'époque était américain, noir américain. Et en fait, quand on est noir américain avec des moyens et quand on est noir américain sans moyens, c'est pas du tout la même chose. Et là-bas, en fait, il y a une vraie bourgeoisie américaine. C'est-à-dire que parfois, on allait dans des soirées où c'est des soirées de gala, il y avait que des noirs, mais c'était que des noirs à succès. En fait, moi, je suis pas de leur milieu, mais il y avait personne comme moi, en fait. Il y avait personne comme moi, c'était que des gens... qui avaient réussi...
D'une certaine classe sociale.
Oui, bien sûr. Des gens cultivés, des gens beaux, des gens qui sont fiers d'être américains, des gens qui sont fiers d'être noirs. Il y a une vraie culture américaine. Il y a des films américains, tu as des cinémas américains, tu as des lieux où il n'y a que des noirs américains. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais ça existe. ça existe. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu là-bas. Du coup, aujourd'hui, je comprends mieux parfois quand les Américains pauvres se plaignent parce que le système éducatif n'est pas bon, parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre correctement. La réalité des Noirs américains aux États-Unis, elle existe aussi, en fait. Mmh. Les armes, moi, j'ai pas connu cette ambiance-là, mais les armes, c'est une réalité. Ouais. Les Noirs qui sont tués dans la rue, juste parce qu'ils sont Noirs, c'est une réalité.
Et est-ce qu'après ça, après ce séjour-là, vous êtes retourné pour travailler
oui,
en tant que journaliste ?
Oui, j'y suis retournée à plusieurs reprises pour travailler. J'ai fait un sujet sur Victoria's Secret, Victoria's Secret. J'ai fait des sujets sur Spring Break à Miami. J'ai fait d'autres sujets sur les fermiers américains.
Voilà, Gina Loukiessa est notre invitée aujourd'hui, journaliste indépendante, et elle travaille sur plusieurs projets, on dira dans l'audiovisuel et surtout au niveau du journalisme. Elle se trouve en ce moment en Côte d'Ivoire pour réaliser un documentaire sur ce grand artiste africain qui fait de la rumba, Fally Ipupa. Parlez-nous de ce projet-là, de documentaire sur Fally Ipupa.
Alors, je ne peux pas beaucoup en dire parce que le sujet est en cours de tournage et surtout, il n'a pas encore été diffusé. Mais c'est oui, je suis en train de suivre Fally Ipupa. Là, c'est un artiste congolais que j'affectionne. Quand on m'a proposé le sujet, j'ai dit oui parce que j'avais envie de mettre en valeur un artiste de mon pays. Moi, je suis congolaise d'origine. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Je t'avoue que je connaissais pas l'artiste comme ses fans avant de faire le sujet, avant de signer. Je connaissais ses musiques, je connaissais l'artiste, je savais qui c'était, mais je le connaissais pas comme les spécialistes de la musique peuvent le connaître ou comme ses fans peuvent le connaître. En fait, je découvre un artiste un peu à l'américaine, c'est-à-dire quelqu'un qui performe, qui sait danser, qui sait chanter, qui est jamais fatigué en fait. Là, il a plusieurs shows. J'ai suivi à Paris. Ensuite, il a enchaîné avec Wembley en Angleterre. Ensuite, il a été en Belgique, Côte d'Ivoire. Il a fait le Sofitel. Ensuite, il a fait un autre festival. Et là, c'est pas fini. Je pense qu'il a un mindset. Il veut réussir lui aussi. Il veut réussir. Il sait chanter, danser. C'est ce qu'il sait faire et il essaie de le faire bien. Il essaie de donner. Ce qu'il peut au public, surtout qu'ici en Côte d'Ivoire, d'après ce que je vois, les gens l'adorent. Ouais. C'est un peu le chouchou des nanas ici.
Bien sûr. Et c'est ce qu'on voit. Et voilà, nous avons hâte justement de voir ce travail-là, une fois fini, à l'écran. Et ce sera vraiment un plaisir de suivre ce documentaire sur Fally Ipupa. Voilà, Gina Loukiessa qui travaille en ce moment. Alors, on va terminer cette émission, mais avec certains messages que vous allez justement nous apporter, surtout aux auditeurs et auditrices de cette émission, mais des messages de valeur, surtout pour ceux, par exemple, celles qui aimeraient suivre ce métier de journaliste, mais surtout ceux qui aimeraient se lancer, par exemple, dans le volet indépendant, on dira qu'ils veulent être journaliste indépendant, quelles sont les exigences et puis quelles sont les attitudes à adopter et quel message vous pourrez leur adresser, Gina.
Alors, moi, déjà, je dirais que pour faire le métier de journaliste, il faut vraiment être sûr de soi parce que ce n'est pas un métier facile, même si on a l'impression derrière sa télé que c'est très facile. Ce n'est pas facile. C'est un métier où on est beaucoup au contact des gens. En tout cas, moi, dans mon métier, à moi, dans mon domaine, c'est un métier où je suis au contact des gens. Donc, il faut déjà aimer les gens. C'est un métier où on ne compte pas ses heures. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler un samedi, on peut travailler un dimanche. C'est un métier où il y a pas mal de sacrifices aussi. Là, ici, moi, je suis avec vous. Je pourrais être avec ma famille, mais je ne suis pas avec ma famille, en fait. Je suis ici, je travaille, en fait. Ouais. Donc, il y a quand même des sacrifices à faire. Et à côté de ça, c'est un métier de passion, comme je disais. Donc, une fois qu'on est dedans, en fait, il faut s'amuser. Il n'y a pas que le travail, il faut s'amuser. Bien évidemment, il faut préparer ses interviews un maximum. Mais il ne faut pas oublier de s'amuser parce que c'est important, en fait, de s'amuser. C'est important de ne pas trop tout le temps tout calculer. C'est-à-dire que là, si on prend l'exemple de Fally Ipupa, je vais couvrir son concert. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi s'émerveiller d'être là. Si je ne faisais pas ce métier, peut-être que je ne serais pas ici à Abidjan avec vous. Je répète ailleurs. Donc, il faut aussi s'amuser, réaliser qu'on a de la chance de faire ce métier Et avec ça, je pense que déjà, si on a compris qu'on pouvait, qu'il fallait travailler, si on a compris qu'il fallait faire ça avec passion, si on a compris qu'il fallait faire des sacrifices aussi, bah, c'est déjà pas mal.
En termes de valeurs, vous êtes aussi attaché à la solidarité humaine. Vous travaillez beaucoup aux côtés des communautés, surtout des enfants défavorisés. Mm-hmm. Oui, et cela à travers une association.
C'est ça. Et j'ai monté mon association il y a 6 ans maintenant en France, qui s'appelle G-Class. Et en fait, c'est une association qui aide les enfants défavorisés qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Je l'ai créée parce que donc je suis issue, je suis née à Kinshasa. J'y suis allée en 2017 pour le travail et ensuite j'y suis retournée en 2019 pour les vacances. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Et je me suis renseignée pour savoir pourquoi est-ce que c'était le cas. Et en fait, au Congo, il y a pas mal d'enfants qui vont pas à l'école parce que l'école est payante et les parents ont pas les moyens de les emmener à l'école. Du coup, j'ai été voir à quoi ressemblait une école payante et une école qui n'était pas payante. Et en fait, les écoles qui sont pas payantes, il n'y a pas de professeurs. Les enfants viennent, mais c'est plus pour traîner, c'est pas vraiment pour aller à l'école. Du coup, je suis rentrée en France et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, moi, à mon niveau, pour aider ces enfants. Et donc, j'ai créé G-Class. Mon association aide les enfants à aller à l'école. De quelle manière? C'est-à-dire que je me suis associée avec une école qui est à Kinshasa, qui est payante. Moi, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'éducation nationale renouvelle les programmes quasiment tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a des fournitures scolaires, des livres, qui vont à la poubelle. Donc moi, je les récupère, ces fournitures, via des amis qui sont professeurs d'école, directeurs d'école. Ils me gardent ces fournitures qui sont censées aller à la poubelle. Je les récupère et je les envoie à Kinshasa. Et en fait, avec l'association avec laquelle je me suis associée, donc cette école-là est payante hein, pour les gens qui ont les moyens, mais je leur fournis du matériel scolaire, des livres qu'ils n'ont pas, c'est des livres neufs, les cahiers sont neufs, les feuilles sont neufs, les stylos sont neufs, je leur fournis ce matériel-là, et eux, en échange, ils scolarisent 5 enfants dans leur école, gratuitement. Donc ça, c'est la première année, et la deuxième année, je me suis associée à d'autres écoles à qui je fournis des fournitures scolaires et qui, elles, en échange, pareil, scolarisent des enfants grâce à ce que je leur donne. Donc, ça, c'était à Kinshasa jusqu'à présent. Et puis, là, depuis début d'année, là, il y a aussi, j'ai fait la même chose avec une association qui est basée, elle, à Dakar. Donc, pareil, c'est une école qui est payante pour les élèves. Mais elle scolarise gratuitement des enfants qui n'auraient pas les moyens d'aller à l'école. Elle les scolarise gratuitement en échange de ce que je fais moi, c'est-à-dire en échange du matériel que je leur donne, des cahiers, des stylos, des livres, des dictionnaires, parfois des ordinateurs. On n'en a pas toujours, mais parfois des ordinateurs.
Et donc cette initiative se répand petit à petit.
J'espère. Oui. J'espère qu'elle peut se répandre. J'espère que... En vérité, j'espère... Enfin, ce serait bien si elle n'existait pas, mon association, et que les enfants pouvaient aller à l'école.
Ouais.
Gratuitement, en fait. Mais j'espère pouvoir aider d'autres enfants et d'autres écoles. Mais en fait, pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai vraiment une confiance. Il faut qu'on ait confiance. Il faut que les écoles avec qui je travaille, j'ai confiance en elles et qu'elles aient confiance en moi aussi.
Confiance aux partenaires.
Exactement, parce que moi, les fournitures qu'on me donne, c'est des fournitures qu'on me donne parce que c'est moi, parce qu'on me connaît. Donc, il faut que je sache où est-ce que ça va.
Il faut un suivi, justement.
Exactement, il faut un vrai suivi. Il ne faut pas que... C'est parce que c'est déjà arrivé. Il ne faut pas que ces fournitures soient vendues. Ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est pour aider les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école.
Oui, en contrepartie.
Voilà.
Et puis, en perspective de cette association, qu'est-ce que vous avez là déjà dans le plan, dans la vision?
Mais j'aimerais aider d'autres pays, c'est-à-dire d'autres écoles,
enfants, ouais.
Dans d'autres pays, pas seulement les Congolais et les Sénégalais, parce qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Et ouais. Pour moi, c'est important l'école, parce que j'ai grandi en France en ayant une scolarité gratuite. Et pour moi, l'école, c'est vraiment là où on apprend beaucoup de choses. Moi, je ne remercierai jamais l'éducation nationale française m'avoir permis d'aller à l'école et d'avoir appris tout ce que je sais aujourd'hui. Moi, j'adorais l'école quand j'étais petite, mais vraiment, c'était mon lieu préféré. Donc, s'il y a des enfants qui peuvent aussi vivre ça, bah, pourquoi pas, en fait.
Merci beaucoup, Gina. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu dans ce numéro de La Paix en Chanson.
Merci.
La paix en chanson.
Thank you.